France Culture.
Talmudique. L'année commence avec ses vœux de santé, de bonheur et de joie, auxquels il faut rajouter, quand on est lucide, des vœux de paix. La paix ne consiste pas, dit Spinoza, dans l'absence de la guerre, mais dans l'union des cœurs. Une union qui doit se construire non seulement au sein des États ou d'État à État, mais dans une relation interpersonnelle, dans l'entre-deux d'un regard et d'une parole, dans le face-à-face de deux visages. Et c'est là le credo d'un projet pédagogique de grande envergure, intitulé The Beit Project, littéralement le projet de la lettre Bet de l'alphabet hébraïque, ou projet de la maison, qui vient de fêter ses 15 ans d'existence. À cette occasion, une grande soirée eut lieu à l'Institut du Monde Arabe, une soirée pour célébrer, transmettre et se projeter, un moment de partage aussi pour faire connaître cette grande aventure et inviter chacun à y participer à sa mesure. C'est en compagnie de David Stoleru, son fondateur et son directeur, que nous allons en parler aujourd'hui. David Stoleru, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
David Stoleru, c'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je dis à nouveau car nous vous avions reçu une première fois en 2016, c'était il y a 10 ans, et depuis de nombreux projets ont été réalisés et de nouveaux sont en cours de préparation, nous allons en parler. Mais avant, merci de nous rappeler ce qu'est exactement The Beit Project, sa fondation et sa création, et le fait que vous soyez architecte de formation n'est sans doute pas étranger à toute cette aventure. Comment tout cela a-t-il commencé, David Stoleru ?
Je suis arrivé à Barcelone pour mes études d'architecture, faire un Erasmus comme tellement de jeunes étudiants. Et très rapidement, je suis tombé sur quelque chose de tout à fait étonnant. Dans la vieille ville, dans l'ancien quartier juif qui est au cœur de la vieille ville de Barcelone, j'ai vu des lettres en hébreu dans les pierres de ces murs, des inscriptions en hébreu. Et notamment dans un bâtiment très symbolique, puisque c'était l'ancien palais de l'Inquisition, qui est aujourd'hui le lieu des archives de la couronne d'Aragon. Et je me suis dit, comment c'est possible? Qu'est-ce que ces lettres font là? Qu'est-ce que ces pierres font là? Ça m'a interpellé avec une telle force que j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il s'agissait de pierres tombales de l'ancien cimetière juif médiéval de Montjuïc à Barcelone, qui avait été réutilisé comme matériel de construction pour ce palais et bien d'autres constructions dans la vieille ville. Je me suis dit que c'était quelque chose de tellement fort, ça l'était pour moi, que j'ai voulu le partager et me dire qu'en fait, en tant qu'architecte, la réhabilitation de bâtiments, c'est pas seulement le travail sur le bâtiment lui-même, sur l'idée d'attirer des gens, des touristes, etc. Mais c'est réellement pour l'utilisation sociale que les histoires qui sont incluses dans un lieu peuvent amener. La réflexion sociale et la réflexion pédagogique, c'est-à-dire comment transformer ces histoires et ces lieux en un outil pédagogique pour le vivre ensemble. En se rendant compte qu'il y avait toute une réflexion sur les relations entre minorité et majorité, je me suis dit que cette histoire ou ces histoires pouvaient nous amener à réfléchir sur la situation en général aujourd'hui, les relations au sein d'une société entre minorité et majorité.
Des histoires sont inscrites dans la pierre et c'est ce que vous voulez montrer, c'est-à-dire le lien entre l'urbain et l'histoire d'une certaine manière, c'est cela ?
Les lieux incluent comme un millefeuille en fait, toute une histoire, toutes des histoires. Et ce qui m'a paru essentiel, c'était de créer dans chaque lieu qui contient ces histoires-là, eh bien, un lieu d'étude et un lieu de rencontre. Et donc réfléchir comment ces histoires qui peuvent avoir eu lieu il y a des centaines d'années, ou il y a 50 ans, ou il y a même moins, sont incluses et restent présentes dans notre espace urbain. Et finalement, c'est pas anodin. C'est-à-dire que ça façonne la société contemporaine. Ça façonne les relations. Et ou bien le subit inconsciemment, ou bien on comprend à quel point il y a quelque chose qui peut nous amener à réfléchir sur nos relations aujourd'hui et la façon, la société que nous voulons façonner aujourd'hui.
Les pierres racontent des histoires.
Absolument. Les pierres racontent des histoires. Et un petit peu mon rôle dans tout ça, ça a été de me dire comment est-ce que ces histoires que moi je comprenais, mais parce que voilà, je venais de cette culture, je découvrais quelque chose qui me touchait, c'était de me dire, en fait, comment est-ce que cela peut toucher tout le monde? Et surtout, les gens qui habitent en face, les enfants qui passent devant tous les matins, les habitants de la ville, et les jeunes. C'est-à-dire, comment ça peut devenir une partie intégrale de notre expérience de l'environnement urbain.
C'est-à-dire qu'on peut dire que David Stoleru est l'homme qui chuchote à l'oreille des pierres?
Oui, ou en tout cas, celui qui sait écouter les pierres quand elles parlent. Et toute la recherche que j'ai menée à ce moment-là, donc il y a 15 ans, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut utiliser tout cela et le transformer en une matière première extrêmement présente et extrêmement forte. C'est-à-dire, je ressentais le potentiel énorme que cela avait et l'effet que ça avait sur moi. Et comment est-ce qu'on peut le transmettre, le partager avec un maximum de gens.
Alors vous créez The Bait Project, qui est une expression bilingue, qui comprend un mot d'hébreu et un mot d'anglais. On est là dans un entre-deux-langues important qui souligne d'emblée le thème de la traduction, une invitation au dialogue et à l'échange. Que signifie l'expression Bait Project? Bait est une lettre et un mot en hébreu qui sont tous deux riches de signification, David Stoleru.
Le mot bait, donc, qui est une construction à la base de bait, mais aussi de la lettre bête, comme vous l'avez dit, c'est une double référence. C'est une référence au mot maison. Donc, bait et bait, comme dans bait sefer, bait knesset, etc., dans la construction de mots à la base de la maison. C'est tout d'abord l'idée de transformer ces lieux qui sont peut-être anodins en quelque chose d'extrêmement proche, qui fait partie de notre expérience presque de la maison. Et la deuxième référence, c'est la deuxième lettre, et donc le binôme, le chiffre 2. L'idée que finalement, le binôme est essentiel. On ne fait rien de vraiment important dans la vie, si on regarde de façon plus précise, sans l'autre. Construire la maison, on ne peut pas le faire tout seul. Avoir des enfants, on ne peut pas le faire tout seul. Il y a toute une série de choses qui demandent absolument cette connexion avec l'autre. Et ces lieux m'ont paru des lieux essentiels pour imaginer que c'est des lieux de rencontre, parce qu'ils contiennent en eux-mêmes cette histoire de rencontres qui ont pu être joyeuses ou dramatiques, mais ils contiennent un enseignement essentiel.
Cet enseignement, vous voulez le partager en faisant apprendre, justement, et en créant dans ces lieux ce que vous appelez une école nomade, une maison nomade. C'est un oxymore, parce que une maison, en général, c'est bien fixe, mais là, c'est la maison nomade. C'est un petit peu la souka, c'est-à-dire cette cabane de la fête de Soukhot dans le judaïsme. Mais vous avez non pas inventé une souka, mais vous avez, en tant qu'architecte, inventé des structures éphémères dans lesquelles des enfants d'école peuvent se rencontrer pour lire, pour apprendre, pour interpréter les lieux qu'ils vont découvrir grâce à votre projet.
L'école nomade du vivre ensemble, c'est donc le projet que l'on a conçu à ce moment-là. Et c'est, comme vous l'avez dit, quelque chose d'extrêmement complexe, parce que on imagine le nomadisme comme quelque chose donc éphémère. Alors, à la base, je me disais, bon, il faudrait construire une école dans chaque lieu de patrimoine, mais c'est un petit peu compliqué. Par contre, avoir une école éphémère, une école nomade, un lieu, une structure qui reste là pendant un moment et qui continue ensuite, permet de s'inscrire dans un lieu et d'en extraire, ou en tout cas d'en essayer d'en comprendre toute la complexité et toute la force. Vous avez nommé la souka, donc, qui est une structure pour la fête de Soukhot. Il y a aussi la roupa, qui est le dé nuptial dans lequel se déroule la cérémonie du mariage. En fait, on a toujours besoin d'un lieu. Et cette construction, même si elle est fragile, elle transforme complètement l'espace urbain et le lieu dans lequel on s'inscrit. Et c'est ça la force de tout le processus. C'est-à-dire que la première activité que font les jeunes quand ils arrivent dans le projet, c'est de construire en binôme chacun la cabane qui va être le lieu d'accueil, le lieu de rencontre, et qui, même s'il est fragile, en fait, il se base sur l'architecture de la lettre bête, sur la forme de la lettre bête, c'est-à-dire une toiture, un mur, une base et surtout une grande fenêtre vers l'extérieur. Pour ceux qui connaissent la forme de la lettre bête hébraïque, c'est symbolique d'une maison, ou même d'une demi-maison, pour imaginer, qui forme cet espace dans lequel la rencontre va avoir lieu. Et donc, on commence pas par parler, se présenter, etc. On commence par faire ensemble. Et à partir de là, tout est possible. Une fois que deux personnes ou deux élèves, deux jeunes sont installés dans la cabane, le lieu qu'ils ont co-construit, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui les lie. Et à partir de là, ils peuvent même lire l'environnement et y découvrir tout ce qui s'y est passé.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en filigrane, il y a aussi le bait arabe, qui signifie aussi maison, rappelant que arabe et hébreu sont des langues sémitiques sœurs. Et je crois que ça a toute son importance dans votre projet, David Stoleru.
Oui, c'est extrêmement important, parce que justement, c'est une notion qui est tout de suite expliquer aussi aux participants, c'est-à-dire qu'on se base sur cette idée de la maison qui est commune dans l'hébreu et dans l'arabe, et qui a donné d'ailleurs une floritude d'autres mots dans des langues européennes, comme le bâtiment, qui vient de cette même notion. On avait eu l'occasion de découvrir encore d'autres mots qui sont liés à cette même racine, et ça donne tout le sens et l'importance de cette connexion, c'est-à-dire réfléchir à quel point on peut transformer la maison, et on peut transformer en maison ces espaces qui racontent des histoires qui sont non seulement connectés à des gens qui ont vécu là il y a 500 ans ou il y a 50 ans, mais qui sont intimement connectés aussi à notre expérience.
Comment se déroule une activité du Beit Project avec les classes des écoles avec qui vous travaillez? Comment se fait l'apprentissage du vivre ensemble? Comment se construit cette éducation à la paix au-delà de la construction de la maison, de la cabane que vous avez évoquée, David Stoleru?
On ne cherche surtout pas à dire qu'on est tous pareils, mais justement affirmer la valeur de la différence qu'on a chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir uniquement sur la base commune, mais d'affirmer que grâce à nos différences, on va pouvoir s'enrichir les uns des autres. Et que finalement, on part chacun avec un petit peu installé dans une cage, qu'elle soit dorée ou non, mais celui ou celle qui a la clé pour nous faire sortir de cette cage, de par notre conditionnement, du contexte d'où on vient, etc., notre culture, eh bien, celle ou celui qui a la clé, c'est l'autre. C'est celui qui va nous permettre de découvrir d'autres choses et qui, du coup, va nous permettre de dépasser nos limites. Donc, chaque activité qui dure 2 jours sur le site, donc c'est très court mais extrêmement intense, permet la rencontre entre 2 classes venant de la même ville mais de contextes très différents. Ça peut être d'un quartier résidentiel et d'un quartier populaire, ça peut être une école privée, une école publique, ça peut être une école confessionnelle ou une école laïque. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est que il va y avoir une rencontre dans ce lieu entre des personnes très différentes, entre des jeunes venant de contextes très différents. Et le projet commence par la mise en place de binômes qui vont avoir toute une série d'activités dont la première est cette installation dans les lieux, et puis ensuite de pouvoir partir à la découverte des lieux et des histoires qui se cachent derrière ces lieux. C'est-à-dire que non pas par une visite guidée, mais par une façon de regarder l'environnement qui va leur permettre de détecter les plaques, les monuments, les ruines, les éléments dans l'architecture, tout ce qui va nous permettre d'écouter ce que les murs ont à nous dire. Et une première journée est centrée donc sur cette idée de la découverte, et une deuxième journée est centrée sur l'idée de l'interprétation. C'est-à-dire non plus quelle est l'histoire qui se cache derrière ces murs, mais comment cette histoire ne parle pas seulement du passé, mais aussi du présent et de nous. Et c'est là où la rencontre entre les 2 élèves va être essentielle, puisque chacun va avoir ses références et va pouvoir présenter à l'autre de quelle façon il voit les choses. Et c'est la construction commune qui finalement va faire émerger de nouvelles interprétations. Ces interprétations vont être soumises à des gens, des passants, des habitants du quartier dans lequel on s'est installé. Et c'est ces dialogues qui vont être filmés par les élèves et qui vont ensuite préparer un petit montage pour présenter ces vidéos qui intègrent donc le lieu et les réflexions que le lieu leur a amenées, et sera présenté lors d'une présentation finale dans chacune des villes où le projet a lieu. Et puis, cette école nomade, en fait, voyage de ville en ville. Elle a commencé à Paris il y a 15 ans, dans le quartier du Marais, lorsque le projet était centré sur l'histoire des communautés juives. Et puis ensuite, s'est agrandi, s'est ouvert vers d'autres réalités qui parlent de l'altérité dans l'espace urbain. Et passé de Paris à Barcelone, de Barcelone à Rome, à Bruxelles, à Berlin, etc. Pendant ces 15 ans dans une 20aine de villes en France et en Europe.
Alors on voit que c'est un projet où l'étude est au centre. Vous parlez de lire l'environnement, vous parlez de l'interpréter, de le partager. On est au cœur d'un processus pédagogique et d'étude, et on se rend compte que Beit Project est un dispositif lourd et important d'un point de vue non seulement pédagogique, mais aussi logistique. Et je me suis demandé, est-ce que la participation de ces classes au projet, Bait Project, pour les écoles, alors c'est une question un peu technique, mais elle était importante pour moi, pour comprendre comment des écoles qui écoutent, par exemple, notre conversation, notre entretien, peuvent penser y participer. Est-ce que c'est onéreux pour ces classes, David Stoléru?
On a bien sûr une structure qui nécessite surtout des ressources humaines extrêmement importantes. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire tous les efforts possibles pour que les écoles puissent participer avec le moins de frais possible, pratiquement à coût zéro et dans une grande partie des cas de façon entièrement soutenue. Et c'est pour ça que le Bait Project ne peut pas exister sans les personnes, les institutions avec lesquelles on travaille et qui soutiennent le projet. Certaines de façon, les équipes, les bénévoles, etc. Mais aussi, bien évidemment, celles qu'ils font financièrement, comme les fondations, Carasso, Matanel, Alter Ecker, la Caisse des dépôts et bien d'autres. Et des acteurs institutionnels comme la DILCRA, les administrations locales. Donc tout un montage pour permettre aux établissements scolaires de participer. Et aujourd'hui, notre volonté et notre ambition, c'est de pouvoir amener dans la situation qui est celle qui... et la nôtre aujourd'hui dans la société française, européenne, mais aussi ailleurs, de permettre à chaque fois plus d'établissements scolaires de participer. Et donc d'essayer de trouver, et c'est à chaque fois une rencontre, hein. Le projet, c'est la rencontre non seulement entre les élèves, mais c'est la rencontre aussi avec toutes les personnes, les partenaires. Effectivement, l'idée, c'est d'aller chaque fois plus loin. Et aujourd'hui, on sent à quel point les besoins sont immenses.
Chaque fois un peu plus loin, avec beaucoup de réussite, puisque... on peut dire que je crois qu'il y a plus de 10 000 enfants qui ont participé déjà à ce projet, de très nombreux pays. Je crois qu'il y a plus de 20 pays et plus d'une centaine d'écoles, David Stoléru.
Oui, alors effectivement, le voyage qui a démarré il y a 15 ans à Paris continue et se développe chaque fois plus. On a aujourd'hui plus de 13 000 élèves jeunes qui ont participé et on a retrouvé pour les 15 ans, justement, des élèves qui avaient participé il y a 12, 13, 15 ans, notamment à Barcelone et dans d'autres villes. Et ça a été extrêmement riche de les questionner, leur dire « alors qu'est-ce qui vous reste de tout ça ?» Et des centaines d'établissements scolaires. C'est pour ça que aujourd'hui, après ces 20 villes, eh bien, il y a une vraie ambition de aider et transformer dans ce qui est la structure même. Et on a de très bons contacts avec l'éducation nationale et notamment on a réfléchi, on a pu être impliqué dans un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations et intégrer l'idée de visite dans les lieux de patrimoine et donc d'une visite qui serait pas seulement une visite guidée mais une vraie recherche personnelle qui permet de relier l'histoire du lieu et notre histoire personnelle.
Sunny, 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 s
sommes en train d'entendre un chant de Nitin Sahune qui s'appelle Homeland. C'est votre choix, David Stoleru. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau et qui nous fait entrer dans ce grand moment que fut la soirée du 16 décembre dernier à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Pourquoi l'Institut du Monde Arabe ? En quoi cela était-il important de faire cette soirée en ce lieu parisien si emblématique, en présence de ministres et de personnalités de tout premier plan ? Que s'y est-il passé et comment s'est déroulée cette soirée, David Stoleru ?
Alors tout d'abord, concernant cette musique, ce multiple chant qui s'appelle « Homelands », qui est en fait la rencontre entre différentes cultures. On entend des chants flamenco, on entend des chants indiens, on entend des influences arabo-andalouses. Je me dis à quel point l'idée de Homelands qui est là est liée à la rencontre, à cette idée d'être capable de comprendre comment le lieu dans lequel on est n'est pas exclusif, il est complet par les différentes composantes qu'il réalise et qui y sont incluses. Et donc c'est pour ça que je pensais que c'était tout à fait connecté, tout à fait pertinent. Ce nom-là, Homelands, finalement, Homelands, c'est ce qu'on transporte avec soi. Et dans l'école nomade du vivre ensemble, dans l'école nomade du patrimoine, il y a deux notions. Il y a ce nomadisme qui paraît un oxymore par rapport à l'idée de patrimoine, quelque chose d'ancré dans le lieu, dans le sol, etc. Et finalement, il n'y a peut-être rien de plus fort que cette compréhension qu'on emporte avec soi de lieu en lieu et qui fait vivre aussi au niveau européen, international, l'idée qu'il y a une certaine façon d'être, une certaine façon de vivre dans la société. Et c'est un petit peu ça que l'on voudrait arriver à développer. Et concernant l'Institut du Monde Arabe, ça a été une rencontre extraordinaire. En fait, il y a un peu plus d'un an, en octobre 2024, je suis allé voir l'équipe pédagogique de l'Institut du Monde Arabe à Paris, qui nous connaissait un petit peu d'autres choses qu'ils avaient vues, dont ils avaient entendu parler. Et je leur ai expliqué à quel point, dans la situation qui est l'actuelle, et on était en octobre 2024, il était essentiel d'imaginer quelque chose ensemble. Et en tout cas, c'était vraiment ce que je leur proposais, ce que je leur demandais. Leur réponse a été tout de suite positive. Et on a commencé à construire ensemble, à partir de là, un projet qui a démarré un an après, en octobre 2025, avec des élèves parisiens venant de contextes et de lieux et de typologies d'écoles très différents, puisqu'il y avait des écoles publiques, des écoles privées, une école juive qui a participé à 6 établissements scolaires dans un projet qui s'est déroulé sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe. Un parvis qui porte un nom en plus extrêmement fort, puisque c'est le parvis Mohamed V, ce roi du Maroc qui, en pleine Deuxième Guerre mondiale, a dit à Vichy et aux ordres qu'il recevait, il disait « Non, si les juifs de mon royaume doivent porter l'étoile jaune, eh bien moi aussi, je dois la porter, et tous les citoyens, tous les habitants de ce pays, puisqu'il n'y a pas de différence. » Et c'est de cette façon-là qu'il a pu protéger les juifs du royaume, et c'est un élément extrêmement symbolique et fort qui nous a amené à imaginer le projet sur ce parvis. Et quand on a lancé le projet, à la fin de chaque projet, comme je disais, il y a une grande restitution pendant laquelle les élèves présentent une partie de ce qu'ils ont réalisé devant, bien évidemment, les autres élèves, mais aussi les établissements scolaires, les parents d'élèves, les habitants qui ont été interviewés par eux-mêmes, etc. Donc un très grand moment de restitution. Et je leur ai proposé de relier cette restitution avec la célébration des 15 ans de l'association, qui a donc démarré fin 2010, et de célébrer donc ces 15 ans en même temps, ce qu'ils ont tout de suite accepté. Et ça a été un grand moment, puisque le projet de Paris avait été placé sous le parrainage de la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui a donc été présente et a fait justement un discours sur l'importance de cette rencontre et l'importance de ces travaux pédagogiques. Mais il y avait aussi, bien sûr, Jack Lang, le président de l'Institut du Monde Arabe, qui nous y a accueillis. Et puis, on avait invité aussi l'ambassadeur du Maroc en France pour connecter cela avec un grand projet que nous lançons maintenant au Maroc. Et c'était aussi le sens de ce projet à l'Institut du Monde Arabe. Et M. Driss Boufker, qui est donc le conseiller culturel de l'ambassadeur du Maroc en France, est venu et lui-même a parlé à quel point pour le Maroc c'était important de réfléchir sur son passé, de préserver le patrimoine de son pays et de toutes les cultures qui y ont cohabité, et de faire de cela quelque chose d'extrêmement présent et pertinent pour l'éducation et pour l'avenir du pays. Et donc tout cela nous amène à un nouveau projet que nous lançons actuellement dans différentes villes au Maroc, un pays dans lequel nous avions déjà commencé à travailler il y a quelques années et qui accueille le projet de façon extrêmement positive.
Alors, parlez-nous un peu plus de ce projet, David Stoleru.
Alors, c'est le travail vers la Méditerranée qu'on a commencé il y a quelques années par un projet que vous connaissez, Marc-Alain, puisqu'on en avait parlé, qui s'appelle The Boat Project. Et c'était l'idée de travailler non pas seulement sur les villes autour de la Méditerranée, mais bien de travailler sur la Méditerranée. Et cette fois, on a imaginé l'idée d'un bateau qui traverserait de part en part, d'une rive à l'autre, en fait, du nord au sud, la Méditerranée, en faisant des zigzags entre plusieurs villes, et à chaque fois s'installerait, se déploierait dans ces villes côtières en école nomade du vivre ensemble. Surtout qu'à bord du bateau, il y avait des jeunes venant de ces différentes villes, des jeunes adultes en service civique, qui ont donc eu cette formidable expérience de partager quelque chose qui pour nous est des fois juste un mot, de dire « on est tous dans le même bateau », et bien là, ils l'ont réellement vécu. Et ce qu'ils ont partagé à chaque fois dans chacune des villes, c'est cette expérience avec les jeunes collégiens, les centaines de collégiens qui ont participé dans les différentes villes, que ce soit Marseille, Tanger, Barcelone, Tunis et Bastia, qui ont partagé les différentes phases de ce projet. Donc ça nous a amené dans cette réflexion sur ok, on a beaucoup travaillé en Europe, mais les rives de la Méditerranée, on dirait qu'à chaque fois, elles s'éloignent, et qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Et là, le nouveau projet que l'on lance et que j'ai abordé, c'est un projet dans différentes villes au Maroc, à Essaouira, à Fès et à Tétouan. Tétouan qui est maintenant, depuis le début 2026, la capitale méditerranéenne de la culture. Eh bien, c'est donc ce projet qui va visiter différentes villes et faire le lien entre le nord et le sud, entre les différentes cultures et les différents patrimoines de ce pays, pour que cela redevienne un élément essentiel dans la compréhension de la culture en Méditerranée. Et ça, c'est pour nous vraiment l'un des axes de développement, avec un autre qui est celui des Balkans, dans lesquels, bien évidemment, il y a aussi de grandes questions, et notamment concernant les communautés roms et leur inclusion. Et c'est aujourd'hui, au moment où il y a un processus d'agrandissement de l'Union européenne et d'inclusion des pays des Balkans. La Bulgarie a fait encore un pas important dans son inclusion dans la monnaie unique. Et puis, il y a bientôt l'Albanie. Et c'est pour ça qu'on va travailler donc à Tirana et dans une ville de Serbie.
Projet passionnant. Une dernière question, David Stoleru, concerne le mot hébreu bayit ou beit, la maison. C'est une question qui m'a toujours traversé l'esprit depuis que je connais vos projets. Je me suis demandé comment un projet à vocation universelle, comme vous venez de nous l'expliquer, qui porte un nom hébreu, était reçu dans tous les différents milieux avec qui vous avez travaillé, avec qui vous travaillez, et qui n'ont aucun lien particulier ni avec le judaïsme, ni avec la langue hébraïque, ni avec Israël. David Stoleru.
Alors cette question me ravit parce que en fait, elle est dans toutes les rencontres depuis le premier jour, depuis le début du projet. Vous imaginez bien que quand on va voir un établissement scolaire public en France ou ailleurs et qu'on arrive avec ce mot, souvent les réactions que j'ai eues c'était « mais vous êtes trompé d'établissement, hein, il y a une école juive pas loin, allez les voir ». Et en fait, pour nous, même quand on a décidé, alors au début c'était bien évidemment très clair puisque le projet était centré sur les lieux de patrimoine juif, des communautés juives dans les différentes villes d'Europe, mais même à partir de 2013 quand on a décidé que c'était tous les lieux parlant d'altérité qui nous intéressaient, eh bien on a voulu garder le mot, la lettre, le logo, parce que finalement ça pose question. Et c'est ça qui permet de rentrer de front dans la rencontre. Et quand je présente le projet, je le présente au travers de certains éléments culturels qui lui sont propres, l'étude en binôme, l'interprétation ouverte, la cabane, etc. Et tout ça, ça vient pas du vide. Ça vient d'une culture, des années... alors moi, j'ai étudié en école talmudique, en yeshiva, donc ça vient de tout cela. Et donc, j'explique d'où ça vient. Et ça instaure tout de suite une question sur l'acceptation ou non de la différence culturelle. Et on m'a posé cette question de façon extrêmement claire quand j'étais justement, en 2017, au Maroc, pour le premier projet avec Tanger. Et mon interlocuteur du ministère de l'Éducation nationale m'a dit « Mais David, le projet est extrêmement intéressant, mais tu pourrais pas rajouter à côté du logo en hébreu qu'ils soient en arabe, qu'ils soient en français, qu'ils soient en japonais, en russe, enfin bon. Et je lui ai expliqué que pour moi, le projet avait certaines origines et certains liens, et que je préférais les présenter et les expliquer. En expliquant aussi que ça n'avait rien de religieux, c'était bien évidemment des éléments, des références qui peuvent être culturelles et universelles. Mais que je préférais qu'on me pose cette question au départ et qu'on puisse voir si la réponse que je donne est satisfaisante pour mon interlocuteur. Si elle ne l'est pas, ben je préfère qu'on en reste là et qu'effectivement on se dise au revoir en ami. Mais que si on se mettait d'accord, je savais à ce moment-là que le projet allait être une réussite. Et c'est ça qui s'est passé dans toutes les villes jusqu'à aujourd'hui dans lesquelles nous avons pu travailler.
Merci David Stoleru pour cette très belle conversation, passionnante et riche, riche d'espérance. Je renvoie au site de Bait Project, dont l'adresse est disponible sur le site de l'émission. Merci encore David Stoleru.
Merci beaucoup Marc-Alain, c'était un vrai plaisir que d'avoir cet échange.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et concernant le Bait Project sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.